Nous abordons aujourd'hui un sujet iconoclaste pour notre rubrique santé puisque nous allons parler sophrologie avec une praticienne qui fait référence sur la place de Marseille, Marion Chamassian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticienne en hypnose et en sophrologie et vous êtes coach de vie. Vous êtes installée dans un cabinet médical qui est celui du docteur Billon à Marseille, avec laquelle vous travaillez depuis 8 ans, et vos courants de pratique sont la sophrologie keysédienne et l'hypnose ericksonienne. Voilà qui va parler aux experts, car ce sont les grandes références de ces disciplines, et ce sont donc les formations que vous avez suivies pour devenir une sophrologue, disons, bien assise scientifiquement. Alors, on a l'impression que la sophrologie est la nouvelle pratique miraculeuse face à la dureté de la vie, au malaise un peu généralisé qui s'est répandu sur notre société. On entend souvent vanter les mérites de la sophrologie. Que propose cette pratique ?
Je ne sais pas si c'est la méthode miraculeuse, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir aller vers des méthodes qui sortent de la médecine traditionnelle et qui peuvent nous permettre d'aller faire un pas de côté par rapport à un mal-être, par rapport à des choses qui sont envahissantes dans notre quotidien. Et effectivement, la sophrologie permet de faire ce fameux pas de côté. Comment ? Eh bien, on apprend en séance de sophrologie à ressentir les choses, à mettre des mots justement sur ce qu'on ressent dans le corps, parce que trop souvent, le corps est perçu du côté de la douleur, ou alors pas du tout, justement, pris en compte. On peut penser que le corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de nous déplacer. Or, le corps vit des choses, vit et ressent et nous permet de ressentir soit des choses agréables, soit désagréables. Donc, l'idée en sophrologie, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et de pouvoir aussi analyser ce que l'on pense et mettre du lien entre les deux, entre le corps et la tête. Pourquoi faire ? Bah, pour pouvoir se projeter vers ce qui est important pour chacun d'entre nous et donner du sens à notre vie.
La sophrologie permet-elle d'accéder donc à un bien-être général ou est-ce qu'elle répond précisément à des situations de mal-être qui sont traitées spécifiquement et lesquelles ?
J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. On peut être dans quelque chose dans un mieux-être général et à la fois venir travailler des problématiques très spécifiques, type gestion du stress, évidemment. C'est aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est très important de pouvoir justement comprendre déjà comment fonctionne le stress, à quoi il sert, et quand est-ce qu'on est en trop plein de stress, quand on est dans un stress chronique, c'est-à-dire que tous les jours, on est dans des situations qui amènent à l'épuisement. Et donc, on va apprendre justement à travailler ce trop plein de stress, mais on peut effectivement aussi travailler tout ce qui est anxiété, troubles du sommeil, confiance en soi, c'est très important pour les ados, moi je reçois pas mal d'ados, et leur donner confiance en eux en allant leur permettre de contacter leurs ressources profondes, ce qu'ils savent très bien faire, ce qu'ils ont en eux qui fait qu'ils sont un être vraiment unique. Leur faire prendre conscience de ce truc-là, c'est leur donner confiance en eux et en la vie.
Alors, comment se passe une consultation concrètement et est-ce qu'il faut s'inscrire dans un cycle long de consultation pour obtenir des résultats à mon problème si je viens vous voir ?
Alors, s'inscrire dans un cycle long, ça dépend de ce que la personne recherche. Bien sûr que la personne est là et elle est libre de choisir et de mettre un terme à son suivi ou au contraire de pouvoir le prolonger. On est dans le partage. Je peux, moi, évidemment, dire à la personne, écoutez, voilà ce que je sens, voilà ce que je vous propose de faire. Mais la décision finale appartient à la personne. Ça, c'est essentiel, c'est une valeur essentielle pour moi. Comment se passe une séance de sophrologie ? On travaille d'abord des petits exercices de respiration, des exercices dynamiques du corps aussi, qui vont nous permettre d'être dans un relâchement, de pouvoir détendre le corps, de pouvoir identifier certaines tensions, tiraillements dans le corps, et de pouvoir apprendre à les évacuer. Et ensuite, utiliser une capacité qu'a le cerveau, qui est de pouvoir visualiser. Et donc, ce que l'on fait en séance de sophrologie, c'est qu'en amont d'une vraie séance, d'une séance où on va pouvoir fermer les yeux et se laisser guider par la voix du sophrologue, eh bien, c'est de pouvoir utiliser ces outils, parce que le but, c'est de rendre la personne autonome et qu'elle puisse, dans son quotidien, réinstaller les mêmes outils. C'est vraiment ça qui compte. Et ensuite, une fois qu'on a pratiqué ces outils de respiration, de relaxation, de visualisation, l'idée, c'est de dire à la personne, bah, écoutez, voilà, maintenant que vous connaissez ce que l'on va faire dans cette séance, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous laisser guider pour 30, 40 minutes de séance.
Alors, vous pratiquez notamment l'hypnose. Bon, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'interpelle, parce que je me dis qu'on doit perdre pied complètement. Dans quelle situation pratiquez-vous l'hypnose et qu'est-ce que cela produit physiologiquement sur notre corps ?
C'est pas une hypnose type spectacle que je pratique. C'est vraiment une hypnose qui est d'abord là aussi hein, avec la validation et l'accord du patient, et ça c'est très important, et le patient ne perd pas, ne me donne pas le contrôle de quoi que ce soit. Et ça, c'est effectivement ce que les gens peuvent avoir comme a priori en arrivant ici. Donc je travaille avec la personne et son inconscient. Et c'est son inconscient qui me guide pour aller de manière spécifique travailler ou telle chose. Ce que l'on peut travailler en hypnose, c'est tout ce qui est blocage, c'est tout ce qui est résistance. Quand quelqu'un dit « Ah ben j'ai tel comportement qui se met en route et je n'y peux rien, ça se fait malgré moi » parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression d'être en pilote automatique. Là, on sait, le thérapeute en face se dit « Ok, c'est donc l'inconscient qui fait démarrer un programme appris dans l'enfance, construit dans l'enfance, adolescence, peu importe, mais qui se met en place de manière automatique. » Et l'intention de départ est plutôt bonne à l'élaboration de ce programme et à la mise en route de ce programme. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien peut-être que le programme est un peu défectueux. Peut-être que le programme est sorti pour des situations qui semblent semblables et similaires, mais qui ne sont pas identiques à la première situation où le programme a été élaboré. Et donc, on a besoin de revoir, de retoucher, de retransformer ce programme. Et donc, l'hypnothérapeute est juste un guide pour la personne, pour aller profondément au cœur de sa personne et de pouvoir elle-même retoucher ce qui est à retoucher pour pouvoir sortir de ses résistances, de ses pensées limitantes, de ses compulsions, de ses addictions qui se mettent en route de façon automatique, réflexe, sans qu'elle puisse avoir la main dessus.
On l'a dit, la sophrologie est donc une pratique qui n'est pas médicale. Elle touche pourtant aux soins du corps et de l'âme. Où s'arrête le soin, justement ? Et vous arrive-t-il de travailler en lien avec des médecins ?
Oui. À la question, est-ce que je travaille en lien avec des médecins ? Oui, la plupart du temps, d'ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça prouve aussi que la communauté médicale a aussi évolué de ce côté-là et accepte aujourd'hui de dire bah, que des techniques comme la sophrologie ou l'hypnose ou la méditation, le mindfulness par exemple, peuvent effectivement aider les patients à sortir d'une anxiété généralisée, de phobies, de choses comme ça. Donc, il m'arrive par exemple de travailler avec le cabinet du professeur Ruffo pour des petits-enfants ou des adolescents qui auraient des problèmes de tics, de mouvements qui ne sont plus du tout coordonnés, qui apparaissent et qui nuisent à la concentration, à l'énergie de l'enfant. Et je travaille avec eux sur recommandations de médecins. Je travaille également donc dans un cabinet médical qui donne des avis sur des opérations particulières de l'estomac par exemple, et parce que ces médecins ont bien compris que il y avait aussi un intérêt à ce que la personne puisse travailler sur elle-même au niveau des émotions, au niveau du corps et mettre du lien entre la tête et le corps.
Oui, le cabinet dans lequel vous travaillez est particulièrement actif sur les sujets d'obésité.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a des profils types de patients, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ?
Oui, il y a plus de femmes que d'hommes.
Pourquoi ?
Je pense que les hommes ont peut-être un petit peu plus de mal à venir consulter, à franchir la porte, voilà, à dire « écoutez, j'ai besoin d'aide ». C'est peut-être moins facile pour les hommes. Ceci dit, certains le font. Hein. Après, je reçois tout type de patients. Je reçois des enfants, des ados, et j'aime particulièrement cette population-là. la population des ados, des jeunes adultes, parce que les barrières sont moins fortes. Ils sont absolument partants pour tout essayer, ils sont très réceptifs et quand le lien est créé, ça va en général très vite. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de se dire qu'on a donné quelques clés, justement, pour préparer une bonne vie d'adulte. Une vie d'adulte où on aura peut-être plus de rapidité, plus de facilité à gérer nos émotions, à gérer nos stress et donc à être bien dans nos baskets.
Est-ce que ces patients sont généralement engagés dans une démarche plus globale d'attention à eux-mêmes, de détachement de certaines contraintes, de déprise d'un monde de l'urgence et de la performance? Bref, est-ce que la sophrologie participe finalement d'une certaine philosophie de la vie?
Elle peut. Elle peut, mais je... Est-ce que c'est la quête première quand les gens franchissent la porte de ce cabinet? Je crois pas.
Ils viennent parce qu'ils ont un mal-être, ils viennent parce qu'ils sont pas bien.
Tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque et qui empêche le changement pour aller vers quelque chose de plus aligné, de plus adapté pour leur vie au quotidien. Et donc, c'est souvent ça qui les amène à venir consulter.
Est-ce qu'il vous arrive d'orienter vos patients vers des médecins, vers des psychologues?
Oui, tout à fait. Il m'arrive parfois de dire, écoutez, je pense que je ne suis pas la bonne personne et que la problématique que j'entends aujourd'hui doit être partagée plutôt par un psychiatre ou plutôt par un psychologue. Mais ceci dit, j'ai aussi l'habitude de travailler en complémentarité avec les psychologues ou les psychiatres, c'est-à-dire que eux travaillent sur le psychique, eux travaillent sur les souffrances liées à l'enfance, le pourquoi d'une situation, le pourquoi de pourquoi est-ce que je suis comme ça. Et en passant par la sophrologie ou par l'hypnose, en ramenant les patients au corps, justement, on a un double effet qui est très complémentaire et qui est parfois qui permet une accélération du processus aussi thérapeutique et qui est très aidant pour la partie psychologie. Donc, c'est très utile et les médecins et les psychologues avec qui je travaille comprennent et ont compris très vite l'intérêt.
Marion Chamassian, qu'est-ce qui me garantit que le ou la sophrologue que je vais aller voir est bien formé et n'est pas un charlatan, voire un manipulateur mental?
Ce qui permet de faire le tri, on peut dire les choses comme ça, c'est... déjà de pouvoir avoir une idée du parcours de la personne. Ces formations, mais bon, les formations n'étant pas toutes reconnues, évidemment que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien de faire le tri au niveau des formations. Et puis, ce qui est plutôt parlant également, c'est les témoignages. Aujourd'hui, on a tous des réseaux sociaux, Google, et donc les gens laissent des témoignages. Et ces témoignages-là, sur un suivi, sur un accueil, sur un rendez-vous, peut vraiment donner aussi une idée de la personne que l'on va rencontrer. Rien ne vaut, ceci dit, la rencontre avec la personne. Une séance n'oblige à rien. Elle permet juste de prendre contact et de se dire, ok, est-ce que je pourrais être moi à l'aise avec cette personne? Oui, non. Elle permet aussi de questionner la personne en direct sur... ce qu'on aimerait vraiment préciser. Et donc, moi, je pense qu'une séance, ça peut vraiment permettre de pouvoir effectivement choisir la personne qui va nous accompagner.
Une dernière petite question très pratique pour les gens qui nous écoutent et qui nous lisent. Sur le plan financier, est-ce que la sophrologie, c'est quelque chose qui revient cher pour un patient parce qu'il va devoir avoir plusieurs séances? Comment ça se passe? Quelle est la gamme de tarifs en général?
Globalement, les tarifs s'étendent entre 40 et 60 euros pour une séance de sophrologie qui dure globalement une heure. On a aujourd'hui aussi des propositions d'ateliers en collectif, où là, effectivement, c'est le sophrologue qui arrive avec une thématique qu'il va aborder en séance. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'individuel et de personnalisé. Globalement, on me laisse 15 jours, 3 semaines entre deux séances pour que la personne justement puisse s'entraîner avec les outils qu'elle aura appréhendés en séance, parce que le but c'est ça, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, certaines mutuelles se mettent à rembourser des séances de sophrologie ou même d'hypnose. Donc Voilà. Est-ce que c'est très cher? Je pense pas. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je le crois. Et je pense que, bah, au même titre qu'on irait s'acheter une nouvelle garde-robe, s'occuper de soi, de son intérieur, de son mental et de son mieux-être, je pense que c'est
Bénéfique.
bénéfique, exactement.
Marion Chamassion, je vous remercie.
Merci beaucoup.